pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de pluriel est Jean-Michel Clément, député de la Vienne, membre du groupe parlementaire Libertés et Territoires. Vous publiez Mes intimes convictions aux éditions La Geste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, Jean-Michel Clément, le Premier ministre a annoncé 1 million de personnes ont été vaccinées. Est-ce que c'est une affirmation, une information de nature à vous rassurer sur la vaccination contre le Covid ?
Écoutez, je dirais que je suis ni l'un ni l'autre. La situation vaccinale est quand même préoccupante par rapport aux effets d'annonce. Et moi, je vois autour de moi mes concitoyens qui sont dans une attente fébrile par rapport à ce moment où ils pourront trouver une protection sanitaire. Et beaucoup sont dans l'attente. Malheureusement, beaucoup de centres vaccinaux se sont mis en place, mais c'est les vaccins qui manquent. Et l'inquiétude qui grandit.
Vous le constatez dans votre département, notamment ?
Oui, bien sûr. Surtout, moi, je suis en milieu rural. Et effectivement, plus nous sommes loin des centres de décision, plus les difficultés sont grandes. Et même si des collectivités locales auront vraiment mis en œuvre tous les moyens nécessaires, que des professionnels de santé, y compris les retraités, se sont mobilisés, eh bien, tout le monde est prêt et il nous manque que les vaccins.
Et comment l'expliquez-vous ?
Bon, écoutez, je pense qu'il y a à la fois une forte attente de la part de la population, et puis en même temps, l'approvisionnement en vaccins qui fait défaut. On le sait bien, il y a des difficultés qui sont prévisibles, qui étaient tout à fait prévisibles, oui, c'est sûr, je n'ai pas d'autre mot à dire. La population fragile est grande, et l'arrivée des vaccins, forcément, fait défaut. On peut l'expliquer peut-être par différentes raisons. Enfin, une principale, de mon point de vue, les laboratoires, qui sont les producteurs de vaccins, considèrent les vaccins comme un médicament parmi d'autres. La question de savoir, c'est comment on tire le meilleur profit, y compris dans cette période de danger pour la santé publique, de cette situation. C'est totalement amoral, c'est totalement scandaleux que des fonds de pension, par exemple, comme BlackRock, soient capables d'arbitrer qui va faire demain les vaccins, avec en termes de qui sera le premier sur le marché, je veux dire, et derrière cela, eh bien, quand Sanofi tarde à mettre ses vaccins sur le marché alors que c'est le partenaire qu'a choisi la France, eh bien, on s'aperçoit qu'au final, pendant ce temps-là, ce sont d'autres médicaments de substitution qui seront en vente. On est capable de perdre de l'argent d'un côté pour en gagner deux fois plus de l'autre. C'est totalement amoral, totalement scandaleux sur le plan éthique. Mais la finance n'a pas de sentiment, vous savez bien.
Jean-Michel Clément, on se demande parfois à quoi sert l'Union européenne. Est-ce que sur la question de la lutte contre le virus, sur la question des vaccins, les Européens se montrent efficaces en étant unis ? Est-ce que la France aurait été plus faible sans l'Europe ?
Écoutez, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est pas non plus cette pandémie qui montre que l'Europe fait corps. Elle a une ardente obligation, c'est de justement pour l'avenir d'être unis face aux pandémies qui nous menacent, parce que celle-ci en est une, mais il y en aura d'autres demain. La question de la santé est une question qui doit transcender, je dirais, toutes les politiques, y compris les égaux nationaux. Là, aujourd'hui, on constate, je dirais, il faudra tirer les conséquences de cette situation, et en tout cas en tirer les conséquences pour l'avenir, parce que l'Union européenne en la matière ne se fait pas, si ce n'est que le virus envahit tous les pays. Et au moins de ce côté-là, il n'y a pas le choix. Les politiques n'ont pas de prise sur l'envahissement du virus. On ne choisit pas ce qui sera plus important dans un pays que dans un autre. On le voit bien, tour de rôle, certains pays confinent, d'autres ouvrent les frontières. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est avoir une politique qui soit conduite du haut en bas, c'est-à-dire de la prévention jusqu'au soin. C'est ça qui va manquer et il faudra qu'on en tire les leçons pour l'avenir, inévitablement.
Jean-Michel Clément, dans votre livre « Mes intimes convictions » préfacé par Christiane Taubira, vous racontez votre parcours issu du Parti Socialiste. Vous avez été l'un des premiers députés à rejoindre Emmanuel Macron quand il a lancé La République En Marche, mais vous avez été aussi le premier député à quitter ce parti dès avril 2018. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans son programme et pour quelles raisons en êtes-vous parti? C'était au moment de la loi sur l'immigration.
D'abord, il faut se remettre dans le contexte. Emmanuel Macron était un ministre d'un gouvernement que je soutenais, le gouvernement de Manuel Valls à l'époque et de Bernard Cazeneuve à la fin, quelqu'un que je soutenais. Donc je soutenais le gouvernement, je soutenais le Premier ministre comme je soutenais ses ministres. Emmanuel Macron, je l'ai croisé et connu au travers de sa loi, la loi du consentement, et j'ai apprécié sa manière d'appréhender les sujets du moment. Qui traversait les questions économiques, les questions sociétales, et donc je l'ai accompagné. J'aurais aimé, en son temps, qu'il participe à la première socialiste, qu'il n'a pas fait, et après, je dirais, vous avez vu comment les choses se sont déclinées, je dirais, François Fillon, qui sort gagnant de la primaire à droite, contre toute attente, François Hollande qui se présente pas, il ne se représente pas, la gauche qui se fracture avec Hamon qui sort en réalité d'une primaire qui n'était toute une primaire sauf une primaire de gauche, et résultat des courses, c'est Macron qui arrive là dans un paysage complètement défait et qui emporte la mise. Moi, j'avais pas de raison de ne pas soutenir à l'époque Emmanuel Macron. Ben, son livre Révolution m'avait plutôt séduit sur beaucoup de sujets, et je pensais légitimement qu'il pouvait prendre un relais d'une gauche défaillante et d'une social-démocratie à construire. C'est pour cette raison que je l'ai suivi. Malheureusement, j'ai très 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 vite déchanté, parce que le premier texte qui nous avait été proposé, celui qui consistait à prolonger l'état d'urgence dans le droit commun concernant les libertés, pour moi c'était inacceptable. Je n'ai d'ailleurs pas voté ce texte, c'était dès juillet 2017. Dès juillet 2017, je commençais déjà à me mettre un peu en travers. Donc je n'ai jamais soutenu la politique d'Emmanuel Macron au travers de cela. Et la loi asile-immigration a été évidemment la loi de trop pour moi. Donc c'était pas possible de continuer dans cette voie, et ce qui s'est passé après ne fait que me donner raison.
Qu'est-ce que le macronisme selon vous? C'est une question qu'on se pose parfois, ni de droite ni de gauche.
Non, pour moi, le macronisme, je le résumerai en deux mots. Le fort avec les faibles et faibles avec les forts. Et donc pour moi, c'est ça le macronisme aujourd'hui. C'est un mouvement qui n'est ni de droite ni de gauche, je vous l'accorde, mais c'est un mouvement qui soutient le monde des affaires. Et le monde des affaires sort gagnant de toutes les lois que nous avons pu voter depuis le départ. C'est une constante, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, et c'est de ce dont je crois est une réalité qui ne fait que s'affirmer avec le temps. Quand on voit que BlackRock, par exemple, a failli prendre la main sur le régime des retraites au travers des retraites volontaires, et quand on voit que d'autres grands groupes sortent gagnants de toute situation de monopole qu'on veut casser, mais finalement qu'on aide, certes, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, on l'abandonne, mais en même temps, on fait presque un tapis rouge au même pour la privatisation des aéroports de Paris, qui heureusement ne se sont pas faits, compte tenu des circonstances, mais tout était possible encore. Donc si vous voulez, non, pour moi, le macronisme, c'est d'abord un mouvement fait pour le monde des affaires.
Vous avez le sentiment aujourd'hui que toutes les lois votées sous Emmanuel Macron profitent d'abord au monde de la finance? Vous avez d'autres exemples?
Écoutez, oui, on pourrait... J'en ai plein, mais je dirais, vous savez, il suffit de regarder la fiscalité. Les premières mesures qui ont été prises, c'est-à-dire en matière d'ISF, d'une part, en matière de flat tax, d'autre part, la gauche avait aligné l'imposition des revenus du travail et du capital. Macron s'est empressé de déconnecter l'imposition de l'un et de l'autre, en plafonnant les revenus du capital, l'imposition des revenus du capital. Ça, c'est déjà une marque forte, je dirais, de cette politique qui est plutôt une politique, je dirais, libérale, très affirmée, très avancée. Bon, il y en a plus, dans d'autres domaines, si on regarde par exemple, parce qu'on s'intéresse aux plus pauvres, eh bien on s'aperçoit que quand on commence à dire que les APL on les réduit de 5 euros, on va vous dire c'est symbolique, 5 euros c'est rien, et 5 euros c'est tout pour des gens qui arrivent même pas à finir le mois. Et puis il y a plein d'autres sujets, la réforme de l'assurance chômage, tous ces sujets-là font qu'au final, ce sont toujours les plus faibles qui sont les victimes de ces politiques-là. Donc, vous pouvez le prendre dans un sens pour les plus favorisés et dans l'autre pour les plus faibles, et vous vous apercevez que les écarts continuent de se creuser et que ceux qui restent au bord du chemin sont toujours les mêmes.
Jean-Michel Clément, l'Assemblée nationale débat en ce moment de la loi confortant les principes de la République. Quel regard portez-vous sur ces débats ?
D'abord, cette loi, c'est une loi qui est trop large, selon moi, qui aborde trop de sujets dans un même texte. C'est une loi de confusion, c'est une loi qui brouille complètement les cartes. Moi, je crois qu'il ne fallait pas toucher, au texte fondateur de la République et qui touche aux problématiques de laïcité. Je pense que on n'a pas stigmatisé les choses, on n'a pas touché ce texte de 1905. C'est pas possible parce que les choses sont bien établies, qu'il y ait des pratiques différentes, qu'il y ait des religions qui aujourd'hui sont plus présentes dans notre société qu'hier. Pour autant, ça ne doit rien changer. Dès lors qu'on va toucher un tant soit peu à ce texte, on va forcément fustiger dans un sens ou dans un autre une religion ou une autre. Donc c'est pas possible, je dirais, de toucher à cela. Pour moi, c'est hyper dangereux de toucher à ce texte-là. Après, on a dans cette loi, je vous l'ai dit à l'instant, différents sujets qui sont abordés. On réhabilite l'article 24 de la loi sécurité sous un article 18. Je dirais, c'est un faux nez, tout le monde l'a compris. Donc c'est pas convenable de travailler de cette façon. Donc je pense que ce texte-là encore est un texte dangereux, parce que plutôt que de rapprocher les Français des uns et des autres, eh bien il est là encore pour exacerber les divisions, et je dirais c'est pas comme ça qu'on fait une république, c'est pas comme ça qu'on fait une nation, il faut plutôt travailler à ce qui rassemble plutôt à ce qui divise.
Dans son discours au Mureaux, le président Macron avait parlé de la République en acte. Comment faire nation, justement, pour reprendre une expression employée par Jean-Louis Borloo ?
Écoutez, comment faire nation ? Je pense que le sujet mériterait des développements dans beaucoup de domaines. D'abord, je crois que il faut se poser d'abord la question de l'organisation de notre pays. Aujourd'hui, nous avons avec le temps construit notre pays au travers des villes qui se sont toutes à peu près construites de la même manière avec le temps. Là où nous avions des gens qui cohabitaient, avec le temps nous avons créé petit à petit des communautés. Des communautés qui se sont organisées ou qui ont été divisées d'abord en fonction de leur capacité à vivre dans certains lieux. C'est-à-dire que où on peut vivre en ville ou on peut pas vivre en ville, où on peut vivre au centre-ville ou on peut pas vivre au centre-ville, et petit à petit on a repoussé à la périphérie les gens les plus fragiles, qui sont souvent malheureusement des gens qui ont des handicaps sociaux, et qui ont des origines où pour lesquelles c'est plus difficile de s'intégrer que pour d'autres. Donc on a créé, je dirais, des spectres de société qui font que on a devant nous des strates de populations qui vivent côte à côte, mais qui ne vivent pas ensemble. Donc déjà, la question de la séparation culturelle, la séparation sociale, la séparation économique, conduit à sectoriser notre société. Donc pour faire nation, il faut d'abord essayer de casser ces clichés, faire effectivement de la mixité, faire de l'intégration, faire en sorte que la culture transcende, je dirais, toutes les tranches de population, mais aussi toutes les origines. Nous sommes un pays qui a aujourd'hui qui compte 25% de personnes d'origine étrangère, et il faut absolument que cette dimension-là soit très largement comprise et partagée. Ça n'est pas, à mes yeux, encore complètement fait. Il y a des choses qui avancent, mais souvenons-nous, ce n'est pas parce que l'équipe de France de 1998 était une équipe de France de mixité que cette victoire devant le monde entier a transcendé ensuite la vie en France. Donc je pense exactement comme un symbole. On ne fait pas, je dirais, nation au travers un fait et un seul fait. C'est quelque chose qui se fait dans le quotidien, et qui se fait dans le respect mutuel, qui se fait dans la compréhension, et ça va dans tous les sens, entre ceux qui arrivent et ceux qui reçoivent. Et pour ce faire, eh bien forcément, ça passe par à la fois une politique de la ville, telle que Jean-Louis Borloo le pensait, parce que je crois qu'il avait parfaitement raison, et ça se passe aussi par des politiques, je dirais, dans les villes qui sont conduites par différentes municipalités, qui participent de cette mixité indispensable. C'est comme ça qu'on fait nation, par la mixité sociale, par la mixité culturelle, par le fait que l'accès à l'école, l'accès aux grandes écoles, soit le fait de tous. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Sinon, eh bien, on va continuer à faire le creuser des divisions, et au final, on arrive à des gens qui vont se montrer du doigt ou qui vont s'exclure. C'est ça la difficulté dans laquelle on est confronté aujourd'hui.
Jean-Michel Clément, à 17 mois de la fin du quinquennat de François Hollande, personne n'imaginait qu'Emmanuel Macron serait président de la République. On est aujourd'hui à 17 mois de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que les jeux vous paraissent ouverts pour 2022 ?
Ah, complètement. Moi, je pense que les jeux sont complètement ouverts. Peut-être encore plus qu'il ne l'était il y a 5 ans. On est face à une situation aujourd'hui où les équilibres politiques qu'on connaissait par le passé sont complètement, je dirais, remis en question. Et même Macron qui voulait faire et de droite et de gauche, ou dit de droite et de gauche, ça dépendait des moments où il s'exprimait, on a bien vu que tout ça, ça fonctionne pas. Mais je pense que on n'est pas encore arrivé à retrouver des clivages idéologiques de droite et de gauche. C'est trop tôt. La droite comme la gauche ont besoin de se réinventer, manifestement. On est face à une société, face à un monde qui est en pleine mutation, et dans ce monde-là, il faut repenser à la fois le logiciel politique de droite et de gauche. Moi, je suis de ceux qui pensent que la droite et la gauche, ça a un sens, mais aujourd'hui, l'une et l'autre ont perdu le sens qui peut être le leur. Donc, pour 2022, ça sera encore trop tôt pour arriver à redessiner tout cela. Donc, on sera dans une situation, je pense, totalement inédite, et qui reste à inventer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, rien n'est joué. Je ne crois pas non plus au culte de la personnalité. Je ne crois plus au culte de la personnalité. Je pense que l'homme ou la femme providentielle n'est pas pour demain. Et en tout cas, c'est pas de là que viendra la solution. Donc c'est plutôt d'une organisation politique qu'il conviendrait de repenser que viendra demain la possibilité d'asseoir ce qui est nécessaire pour le pays.
Les idées du RN se sont banalisées ces dernières années. Est-ce que l'hypothèse d'une élection de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle est à écarter aujourd'hui ?
Non, absolument pas. Je dirais c'est une possibilité. Il faut pas l'écarter. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que le Rassemblement national d'aujourd'hui a à voir avec le Front national d'hier ? Et c'est vraiment dans cette évolution des mentalités, évolution des modes de pensée, je suis pas certain que les idées de Marine Le Pen aujourd'hui sont celles de Jean-Marie Le Pen d'hier. Pour autant, je n'y souscris évidemment pas, mais on a bien compris qu'elle aussi, dans son discours, a évolué. Donc elle essaie de coller une réalité sociologique, idéologique, qui fait que, oui, il va falloir s'adapter. La droite, d'ailleurs, en est victime, est la première, ce qui explique cette espèce de maelstrom dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais quand vous dites 2022, qu'est-ce qui est joué ? Rien n'est joué. Mais rien n'est joué, ni pour les uns ni pour les autres, pas plus pour Marine Le Pen que pour d'autres.
Merci Jean-Michel Clément. Je rappelle que vous êtes député de la Vienne, membre du groupe parlementaire Libertés et Territoires, et vous publiez Mes intimes convictions aux éditions La Geste. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.